Je vous remercie d'être venu aussi nombreux ce matin. La salle est pleine et ça fait vraiment plaisir. Merci beaucoup, Jean-Philippe, d'être avec nous. Bonjour.
Bonjour. Bonjour à toutes. Bonjour à tous. Merci d'être venu jusqu'ici. Merci en particulier à ceux qui viennent de loin. Merci d'être là pour parler de livres, pour parler d'histoire, pour parler d'héroïne, pour parler de lecture et du bonheur incroyable que les livres ouvrent dans nos vies. Et merci à la librairie Humola de m'avoir invité. Merci Adeline.
Oui, parce que je vais commencer un peu par ma vie à moi. J'y tenais beaucoup depuis toutes ces années parce que Jean-Philippe Arouvigno, c'est un nom de la littérature contemporaine qui est connu évidemment des libraires, des élèves, des enfants, des parents, des enseignants. Et me concernant, quand je suis devenue libraire jeunesse, c'est un des premiers, Enquête au collège, c'était un des premiers titres que je pouvais recommander aux enfants, à mes lecteurs, sans peine. Parce qu'en fait, j'ai l'âge d'avoir pu, à votre âge, lire Enquête au collège, à peu près à parution. Et je me souviens, j'ai des souvenirs de lecture, parmi tant d'autres, mais celui-ci. Et quand, donc voilà, j'étais contente de pouvoir démarrer avec ce livre-là. Et puis après, j'en ai lu d'autres. J'ai des souvenirs de lecture. Vous avez enchanté notre confinement avec mes enfants et la famille aux petits oignons qu'on a lu à voix haute. On s'est marré comme des baleines avec mes deux garçons. Et c'est vrai qu'en tant que libraire, un nouveau titre de Jean-Philippe Arouvigno, et ben c'est toujours une joie. Et on en parlera juste après, un petit peu après, les exploits de Connemara. Et ben je l'attendais, j'étais ravie et j'ai beaucoup aimé. Et donc je ne sais pas qui l'a lu parmi vous ou si vous l'avez pas encore lu. On en parlera, mais on va parler de manière générale de votre carrière. Jean-Philippe, d'une manière ou d'une autre, votre vie est un peu liée au livre. Pour qui a lu Les Aventures de Jean B, on sait que vous êtes tombé dans la marmite très tôt, que vous avez beaucoup lu, vous avez su que vous vouliez écrire très vite. Vous êtes agrégé de lettres modernes, vous avez été professeur, éditeur. Bon, en gros, les livres croisent votre vie depuis toujours. Donc, est-ce que vous pouvez déjà nous parler de cette genèse, de ce qui vous a formé et amené à cela?
J'ai eu la chance vraiment de naître dans une famille dans laquelle les livres, c'était quelque chose de fondamental. Je me souviens tous les soirs, depuis que je suis petit, mes parents nous rassemblaient sur le tapis du salon ou dans la chambre de l'un ou de l'autre. Et c'était soit un moment consacré à des histoires, soit un moment où on chantait ensemble. Il y avait toujours, avant d'aller se coucher, un petit moment comme ça festif où on prenait les histoires, on utilisait les histoires comme des moments de partage collectif. Et j'ai toujours aimé ça dans les livres, ce sentiment qu'en fait les histoires vont nous rapprocher, vont nous rassembler, qu'on va vibrer ensemble, qu'on va rire ensemble, qu'on va s'émouvoir ensemble. Et dès que j'ai su lire, je crois, je me suis aperçu que les histoires, ça serait ma vie, quoi. C'était là-dedans que j'étais bien, qu'elles me permettaient à la fois de fuir un peu la réalité. J'ai vécu dans une famille, pour ceux qui ont lu les histoires des frères Jean, où on était six garçons. On est toujours d'ailleurs six garçons, mais on vit plus ensemble. Donc vous imaginez une vie très, très surpeuplée. Et les livres, c'était pour moi une façon de m'échapper et de refermer la bulle autour de moi, de disparaître dans une histoire et de plus entendre les bagarres, les frangins qui frappent à votre porte, qui veulent vous emprunter ceci, qui vous ramènent votre jouet cassé, qui prennent d'assaut votre lit superposé, etc. C'était vraiment pour moi un refuge que la lecture. Et en même temps, j'avais l'impression que lire, c'était à la fois le bonheur total, mais que ça crée chez moi un petit manque, parce qu'il me semblait que finalement, les héros des livres avaient une vie qui était beaucoup plus intéressante que la mienne, et que à la fois ça me distrayait, ça me permettait de m'évader, ça me donnait les moyens de pouvoir vivre autre chose en imagination. Mais quand je revenais à la réalité, c'était hyper frustrant parce que finalement je n'étais que moi, je n'étais qu'un gamin dont la vie était relativement plate et terne, qui allait à l'école, qui avait une famille, qui vivait en fait ce que vivent tous les enfants toujours. Et donc j'avais ce besoin de replonger à nouveau dans la fiction, et je l'ai trouvé grâce à l'écriture. Et tout d'un coup, grâce à l'écriture, plus puissamment encore que dans la lecture, je pouvais vivre en imagination toutes ces choses que je ne vivais pas dans la vie réelle. Donc j'ai eu l'impression toujours que c'était à la fois une distraction, la lecture bien sûr, mais aussi pour moi quelque chose de fondamental pour pouvoir exister, pour pouvoir vivre.
Et pour autant, vos premiers titres étaient à destination, enfin pas pour autant d'ailleurs, mais vos premiers titres étaient à destination des adultes. Qu'est-ce qui vous a amené à écrire progressivement pour les enfants?
Alors, j'ai depuis que je suis petit, j'ai commencé mon premier roman, je crois que j'avais 12 ans. J'ai écrit un premier roman, j'avais 12 ans, qui était une histoire d'enfance, etc. Mais en vieillissant, il m'a semblé que progressivement, il fallait que je me détache de cette littérature de jeunesse. Je me rappelle que mes parents me disaient, Jean-Philippe, tu rentres en première, ça serait bien que tu arrêtes de lire Bob Moran et le Club des Cinq et que tu passes à la littérature, enfin. Donc, j'ai mis du temps à faire ce saut en tant que lecteur. Mais une fois que ce saut a été fait, j'ai eu l'impression qu'il m'avait coupé définitivement de la littérature de jeunesse, que j'étais devenu un jeune adulte. J'avais 26 ans quand mon premier roman a été publié, et que donc je ne pouvais plus écrire que des histoires concernant des adultes et destinées à des adultes. Alors c'était à la fois merveilleux que de publier des romans, parce que jamais j'aurais rêvé pouvoir un jour être écrivain, mais ça me laissait un fond de frustration, parce que j'avais dit adieu à ce qui avait été un pan entier de ma vie, toute cette littérature de jeunesse qui m'avait tant emporté. Puis un jour, c'est sur la sollicitation d'une éditrice et écrivaine, Geneviève Brisac, on avait publié ensemble deux livres, nos livres, nos premiers romans adultes. Elle me dit, j'ai l'impression en te lisant que tu as encore un lien très fort avec ton enfance. Pourquoi n'écris-tu pas pour les enfants? Et je me suis dit, mais j'adorerais faire ça, bien sûr, mais je ne sais plus, c'est fini. J'ai dit au revoir à tout ça. Mais l'idée a continué à me travailler, à me tracasser. Et un jour, je me suis lancé dans Le professeur a disparu, que j'ai écrit en 15 jours. Ça a été quelque chose de fulgurant. J'ai eu l'impression que toute cette littérature d'enfance me revenait et que j'avais découvert l'endroit où je voulais être. C'était vraiment mon écosystème, la littérature de jeunesse. Et progressivement, j'ai moins écrit pour les adultes, davantage pour les plus jeunes. Et puis maintenant, ça fait très longtemps que je n'écris plus pour les adultes.
Donc l'une des séries, je crois, les plus lues et les plus vendues, c'est donc Une famille aux petits oignons, la série de vos frères et vous. C'est venu comment, ça, de raconter donc pour ceux qui ne l'ont pas lu, c'est donc les souvenirs de jeunesse, plus ou moins enjolivés sûrement, mais qui se lisent un peu justement à la manière, moi tout de suite, ça me faisait penser au petit Nicolas, des choses, des historiettes qui sont chronologiques, mais qui ne forment pas un vrai roman à suspense ou à énigme, mais bien des tranches de vie. Donc comment avez-vous eu cette idée, et puis surtout comment ça s'est passé avec vos frères?
Alors, l'idée, elle est simple, elle vient du petit Nicolas et de ses lectures de mon enfance. J'adorais deux types de livres quand j'étais enfant. J'adorais les histoires policières et en particulier le Club des Cinq, mais aussi Fantomette, la série des Michel, L'Angelot, Agent Secret, Alice Détective. Enfin, je pourrais en citer un grand nombre de ces séries qui m'ont absolument passionné. Et à côté de ça, j'ai découvert quelques auteurs qui montraient qu'en fait, on pouvait raconter des histoires passionnantes sans que le thème soit spectaculaire. Ça pouvait être simplement des moments de famille, des moments de vie en classe, etc. Et j'avais la chance d'avoir dans ma mémoire cette enfance où on était six garçons, on s'appelle tous Jean quelque chose, donc particularité un peu étrange, et on se suit tous, on a un an et demi d'écart, donc vous imaginez ce que ça pouvait faire quand on débarquait quelque part au restaurant, où on était vraiment les Dalton, sauf qu'on n'était pas quatre comme les Dalton, on était six. Donc, je me suis dit, il y a plein d'anecdotes dans ces moments d'enfance qui pourraient être assez drôles à raconter. Je vais en faire un livre. Et j'ai écrit le premier des livres qui devait être unique. Et suite à ça, je pense que la mémoire s'étant mise en route, je me suis dit, mais en fait, j'ai plein d'autres choses à raconter. Donc, j'en ai fait un deuxième, un troisième, pensant que ça serait... Voilà, à la fin de chacun, je me dis, c'est fini. Et en fait, j'en suis au huitième, je viens de commencer le neuvième, et j'ai l'impression que c'est sans fin. De pouvoir se replonger. Chaque anecdote que je raconte m'en rappelle une nouvelle qui peut être marrante à faire. Et comme vous le disiez très justement, ce sont des souvenirs enjolivés. J'ai pas du tout l'intention, en fait, de raconter mes mémoires, parce que tout le monde s'en fiche de qui je suis. Par contre, la situation les situations sont fortes, et on peut, en les transformant un peu, en les outrant, en les caricaturant un peu, en les tirant vers ceci ou cela, les rendre plus passionnantes qu'elles n'étaient. Alors mes frères, je me rappelle que ma mère était très inquiète de ça lorsque le livre est sorti, en disant « Comment tes frères vont-ils prendre le fait que tu parles de notre famille ?» Alors, j'ai pris quand même un certain nombre de précautions. Mes frères ne sont pas exactement mes frères. J'ai mélangé les traits de caractère des uns et des autres pour que justement ils ne se sentent pas gênés ou exposés. Parce qu'autant j'ai le droit de faire rire de mes bêtises, j'ai le droit de faire rire de mes faiblesses, j'ai le droit de faire rire des sottises que j'ai pu faire quand j'ai enfant, autant je me sentais pas le droit d'exposer mes frères comme ça. Donc j'ai mélangé leurs traits de caractère. Jorah, pour ceux qui ont lu la série, l'aîné, qui est un casse-pied absolu, son surnom c'est Jean Némar, il veut toujours être le chef, il râle tout le temps. J'ai la chance d'avoir le plus gentil des grands frères du monde. Et je pense que le casse-pied de la famille, celui qui voulait être le chef et qui faisait suer tout le monde, c'était plutôt le deuxième, que je ne nommerai pas. Alors, ce qu'ils me disent maintenant, c'est qu'ils me disent... On n'est souvent pas d'accord sur ce que je raconte, parce qu'ils en ont gardé une autre interprétation. Et forcément, quand on a des âges différents, on voit les situations de façon différente. Mais ils sont tous d'accord pour dire qu'en fait, je suis le bon ambassadeur de l'esprit de notre famille. C'est-à-dire que ça s'est passé comme ça. En général, c'était comme ça. Après, dans le détail, ça l'était pas forcément, mais ça, c'est pas grave. Mais alors, c'est marrant parce que alors, ça leur vaut par moments des anecdotes assez rigolotes. J'ai un frère qui a pendant très longtemps dirigé des grandes entreprises, donc il rencontrait des gens d'autres grandes entreprises, il discutait entre grands chefs, etc. Et un jour, un grand patron comme ça dit à mon frère, vous avez un lien avec le Jean-Philippe Arouvignot. Il dit oui, c'est mon frère. Ah, donc vous êtes un des frères Jean. Lequel? Alors il dit ben voilà, j'étais le numéro tant. Et ah, c'est vous le zézayeur. Ben voilà, même poursuivi à 50 ans passés par ses livres, il se retrouvait comme ça ramené à ce moment-là. Mais bon, l'idée vraiment c'était que. Dans ce livre, je célèbre en fait le bonheur de ces moments-là, même si c'était parfois compliqué de vivre trop nombreux, de partager l'affection des parents, de devoir toujours tout partager. J'ai eu envie d'en raconter ça de manière positive et tonique.
Et alors, c'est étonnant parce que justement, vous disiez une vie de petit garçon comme les autres et que aller à l'école, jouer, se disputer. En fait, quand on lit Une famille aux petits oignons, on a vraiment le sentiment, quelque part, que tout est aventure. Un jouet cassé, une balade en forêt, une sortie au restaurant, s'il y en a quelques-unes qui sont très drôles. Et au final, ça ne correspond pas au code de l'aventure. Et alors, je m'interrogeais, vous aussi sûrement en classe, c'est quoi l'aventure? Quels sont les ingrédients? Et donc, en fait, quand on est auteur, qu'est-ce qu'il faut dans un livre pour justement emporter le lecteur et, ou quelle référence qu'est-ce qui crée l'aventure selon vous?
Mais vous avez raison, l'aventure c'est pas seulement des circonstances qui nous pousseraient à vivre des choses extraordinaires, c'est aussi une façon d'aborder mentalement des moments de la vie quotidienne. J'ai l'impression que enfant, même si je ne vivais pas d'aventure à proprement parler, tout effectivement pouvait être une aventure parce que c'était l'imagination transformer tout. Simplement, quand j'étais chez mes grands-parents avaient acheté une maison dans la région bordelaise, qui était une maison complètement décatie, mais qu'ils ont progressivement réaménagée. Et on avait derrière un grand champ. Et ce champ, pour moi, c'était une espèce de pampa, c'était le Far West. J'avais l'impression que quand on disparaissait dans l'herbe, on était comme des Indiens qui se cachaient. Voilà, il y avait comme ça dans ce micro-monde un univers tout entier. La moindre cachette sous un massif, ça devenait une cabane, et cette cabane, c'était une maison dans laquelle on se protégeait de méchants. Voilà. Donc, je crois que c'est surtout une façon d'envisager les choses qui produit l'aventure. Dans un roman. Qu'est-ce qui fait qu'on arrive à raconter une histoire et qu'on tient un lecteur dans un... Moi, ce que j'essaie de faire, c'est que mon lecteur ait envie de tourner les pages et se demande à chaque fois qu'est-ce qui va arriver maintenant. Et pour parvenir à ça, j'écris sans savoir du tout où je vais. Et à chaque moment de mon histoire, je me dis qu'est-ce qui pourrait arriver maintenant. Qu'est-ce que j'aimerais qui arrive maintenant si j'étais en train de lire ce livre, ou mieux encore, si j'étais en train de vivre cette histoire? Et ça, c'est la formidable puissance de la littérature et de l'imagination, c'est de pouvoir comme ça faire exister des choses simplement par la force de son désir. Voilà, j'aimerais tellement que maintenant surgisse tel personnage, qu'il arrive ceci ou cela, parce que ça rendrait tout d'un coup l'action palpitante, ça renverserait les choses, ça créerait un twist génial, ça serait... Voilà. Et c'est ma façon d'avancer dans les livres, et peut-être ça qui peut intéresser le lecteur quand il lit mes propres livres.
C'est bien ça. Donc aussi, ça tient à la figure du héros, du personnage principal. Et alors, je me faisais la réflexion en regardant votre bibliographie, que les héros n'ont pas toujours l'étoffe des héros. Si on commence par Pépé Cuvert, il est quand même diablement prétentieux. Le garçon, il est un peu insupportable. Connie, on le verra, elle a aussi... elle est formidable, elle est sportive, elle est ingénieuse, mais elle aussi, elle a un sacré mauvais caractère. Magnus Million est un pleutre, tout de même. Et d'ailleurs, vous dites dans le petit guide d'écriture qui accompagne les recettes du chef, inutile d'inventer un héros parfait, on peut avoir les oreilles salement décollées comme moi et être un as de l'espionnage. Et donc, comment ils vous arrivent? Comment ils sont créés? La Connie, elle est sortie d'où? Qu'est-ce qui, au moment où vous pensez votre histoire, comment vous dressez le portrait robot du héros?
Moi, je crois qu'il n'y a rien de plus ennuyeux qu'un héros qui serait une espèce de héros parfait, parce que ça serait une forme de, une sorte de cube, quoi. Il aurait des capacités physiques formidables, il serait mentalement parfait, il aurait des capacités de déduction. Bon, ben, quand on est à côté de quelqu'un de parfait, on s'ennuie mortellement. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, on puisse plonger dans l'aventure des gens qui ne sont pas faits pour ça, parce qu'ils n'ont pas les compétences qu'on attend d'un héros, mais qui se révèlent grâce à l'aventure. Et que l'aventure puisse permettre de mettre en avant ce qu'on a tous à un degré, à des degrés différents. On a tous des formes de courage, on a tous des capacités à comprendre, à analyser, à déduire, on a tous des capacités à aller vers les autres, à tenter d'aider les autres. Alors c'est plus ou moins le cas, on sollicite plus ou moins ces qualités-là, mais c'est ça qui est intéressant, et que en même temps le héros soit confronté à ses propres peurs, à ses propres lâchetés, à sa propre paresse. Magnus, il a ceci de particulier que lui, il est accablé d'une maladie qui s'appelle la narcolepsie. À chaque fois que il est envahi par une émotion, il s'endort. C'est une maladie qui existe malheureusement, des gens dont le système nerveux est tel que quand ils sont assaillis par l'émotion, ils s'endorment instantanément, comme quelqu'un qui s'évanouit. Donc vous imaginez, pour un héros, c'est le handicap absolu. Et progressivement, grâce à deux livres, il va parvenir à se débarrasser de cette affaire-là. Et moi, voilà, j'aime ça. J'aime que mes personnages soient des personnages qui aient la diversité de l'humain, qui soient des personnages pleins. Il y a un personnage qui sort un peu de ce modèle-là, c'est Connie Marin. Alors Connie Marin, c'est un personnage qui est composé comme les personnages un peu des héros à l'ancienne de la littérature de jeunesse populaire d'autrefois, c'est-à-dire c'est un personnage qui a quasiment là aussi tous les talents. Elle est menue mais hyper sportive, c'est un as des sports de combat, elle est hyper intelligente, elle gagne tout le temps, enfin elle est vraiment fabriquée comme une espèce de James Bond miniature pour réussir. Ça m'intéressait d'avoir ce type de personnage-là, parce que aujourd'hui, je trouve que c'est un personnage qui est un peu daté, trop parfait, donc pas très intéressant pour les raisons que j'indiquais, mais qui existait dans la littérature que je lisais autrefois, où les héros étaient des personnages extrêmement lisses toujours. Ils disaient jamais un gros mot, ils avaient jamais une faiblesse, jamais une lâcheté, ils étaient toujours comme on doit être. Donc, il y a ce personnage-là qui existe dans un univers de fiction écrit par un auteur. Et je me suis dit, qu'est-ce qui arriverait si ce personnage si lisse se trouvait confronté à la réalité? Et tout d'un coup, il arrive dans un monde où les relations entre les gens sont beaucoup plus complexes. Et il arrive bardé de tout ça, et bardé aussi de l'intérêt qu'on éprouve pour lui. Parce que Connie Marin, tout le monde l'admire, elle est une véritable héroïne, elle gagne toujours. Qu'est-ce qui arrive quand tout d'un coup on se retrouve confronté à la réalité et qu'on est comme ça? Est-ce qu'on serait pas comme une espèce de petite star de cinéma qui, qu'on admire, qui on aimerait ressembler, etc., dont on lit mes aventures dans les journaux? Si on vivait un après-midi avec elle ou avec lui, est-ce qu'on serait pas hyper déçu? Est-ce que ça serait pas quelqu'un d'un peu d'archi prétentieux, d'un peu vide, intéressé par des choses qui nous ne nous concernent pas, etc.? Donc j'avais envie de confronter cette héroïne trop parfaite au monde réel et de découvrir qu'elle aussi a ses imperfections.
Est-ce que justement, si on attaque sur Connie Marin, Je suis pas sûre que vous l'ayez lu. Donc on a un peu les bribes de l'histoire. Est-ce qu'on la remet pas en contexte, vous ou moi, qui raconte l'histoire? Allez-y, racontez-nous un peu le. Parce que donc Connemara, héroïne de.
Donc Connemara, les exploits de Connemara, en fait, c'est une série de romans d'aventure pour la jeunesse écrits par une autrice qui s'appelle Alicia Grant, qui a inventé ce personnage et qui a proposé un premier épisode à tous les éditeurs d'Angleterre, qui ont tous dit non. Madame, vous êtes un écrivain qui n'a encore jamais écrit. Deuxièmement, vous nous proposez des romans d'aventure qui mettent en scène une fille. C'est non. Sauf un éditeur qui dit « Ah, moi, ça m'intéresserait bien, vos aventures de Connemara, mais à une condition, c'est que vous en écriviez 6 par an. » Vous imaginez, Alicia Grande, l'autrice, dit « Mais c'est trop génial, je veux publier un livre. On propose d'en publier 6 par an, c'est génial, je signe. » Sauf que vous pouvez imaginer ce que c'est que d'écrire 6 livres par an, c'est quasiment impossible, à part quelques monstres. Georges Simenon, par exemple, était capable de faire ça. Ça veut dire, j'avais fait le calcul, mais c'est en gros écrire 4 pages par jour, tous les jours. Bon, c'est impossible. Et vous imaginez l'imagination qu'il faut pour un livre terminé, recommencer un autre. Bon, bref, donc la pauvre se retrouve à un moment donné complètement incapable de répondre à cette attente-là. Et ses enfants lui disent, attends, maman, t'inquiète pas, on va t'aider. On va faire ça avec toi. Alors, il y a l'aîné Tom qui a 14 ans qui tape super bien à l'ordinateur. Sa mère est nulle là-dedans, donc dès qu'elle a travaillé le soir, il prend son texte, il tape à la machine, il met au propre, etc. Il y a Violette, 12 ans. Alors, elle est bourrée d'idées, elle lit toute la journée et elle est capable de recomposer une intrigue mal fichue, de proposer des idées, de relancer les choses, etc. Donc, elle est très très forte pour l'inspiration. Et puis en fait, après, il y a la petite dernière, Emma, elle a 6 ans. On pense qu'elle apprend juste à lire, donc elle n'est pas très compétente pour faire ça, sauf que on va découvrir dans le livre qu'elle est bien plus avancée que ça. Donc elle s'occupe de gérer la photocopieuse, de monter les pages aux uns et aux autres. Bref, elle gère une sorte d'intendance. Toute la famille travaille à ces histoires. Et un jour, la maman, Alicia Grant, part amener triomphalement son 7e manuscrit des aventures de Connemara à Londres. Ils habitent en Irlande, elle prend l'avion, elle est censée rentrer le lendemain, elle ne revient pas. Elle a disparu, qu'est-ce qui se passe? Que faut-il faire? Les enfants attendent un jour, 2 jours, 3 jours. Que faire pour retrouver cette maman disparue? Et la petite Emma, donc 6 ans, dit « Moi, je sais, on va appeler Connemara. Connemara, c'est son métier, elle va nous aider à retrouver maman. » Son frère et sa sœur disent « Ma tante, tu dis n'importe quoi, Emma Connemara, elle n'existe pas, c'est une invention, c'est un personnage de fiction, c'est nous qui inventons ses aventures. » « Non, 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 mais elle existe, mais si, moi, je vous assure qu'elle existe, Connemara, d'ailleurs, je lui ai écrit. » T'as écrit à Connemara, mais c'est ridicule. C'est comme si tu écrivais Harry Potter ou c'est pas possible. Et à ce moment-là, on sonne à la porte. Et Connemara là et dit je viens vous aider, vous avez besoin de moi. De quoi s'agit-il? Donc voilà tout d'un coup ce personnage de fiction qui va intervenir dans la vie de ses créateurs, à la fois pour les aider, mais aussi pour leur demander des comptes. Parce que c'est vrai que quand on écrit des histoires, et en particulier des histoires d'aventure, on a tendance à s'acharner un peu sur ces personnages, on a tendance à les mettre dans des situations compliquées, parce que c'est ça qui fait vibrer le lecteur, que de craindre tout d'un coup pour son héros qu'il ne s'en sorte pas, qu'il se retrouve plongé, je ne sais pas, dans des rapides, qu'il soit menacé par des crocodiles, qu'il soit poursuivi par des méchants, etc. C'est ça qui fait vibrer dans un roman d'aventure. Donc nos pauvres héros, on les met dans des situations extrêmement difficiles, extrêmement pénibles, et elle a des comptes à régler avec cette famille en disant « Ouais, vous m'avez pas épargné. » Donc voilà le thème de Connemara pour ceux qui n'ont pas lu ce livre encore.
Donc Connie, vous le disiez, c'est un mélange de vos lectures d'enfants. L'ambiance est volontairement surannée. Alors sûrement parce qu'on est au fin fond de l'Irlande. Sûrement parce que les enfants n'ont pas de téléphone portable. Même la famille n'a guère qu'un téléphone, un répondeur. Je me demandais si les enfants savaient encore ce que c'était qu'un répondeur. Et peut-être parce qu'il y a une passoire à pâte en guise d'abat-jour. On ne sait pas. En tout cas, l'ambiance de ce roman, comment elle vous est apparue? Pourquoi est-ce que c'est Connemara qui fait l'Irlande ou l'Irlande qui fait le prénom de Connemara? Et quelle était la référence absolue de cette nouvelle héroïne?
Pour moi, Connemara, enfin le modèle de Connemara, c'est Fantomette, qui est un personnage qui a illuminé mon enfance. Personnage de petite élève, je crois qu'elle est en primaire. qui a deux copines, Ficelle et Boulotte, et qui est une élève ordinaire. Le soir, elle se transforme en justicière, elle mène des enquêtes, elle porte une cape, un masque, elle file sur les toits, elle s'échappe par les fenêtres, etc. Et j'adorais ce personnage, j'aurais voulu être Fantomette ou vivre dans le monde de Fantomette. Et ce qui m'intéressait, c'était de me dire qu'en fait, si j'inventais moi un personnage comme ça, il fallait que je l'éloigne un peu de la France, parce que je pense que pour le lecteur français, l'existence d'une héroïne comme ça, dans son paysage de lecture, ça marche pas. Alors que si on imagine que c'est une héroïne étrangère, après tout, on connaît moins bien la littérature anglaise que on ne connaît la littérature française quand on est un lecteur français. Donc il fallait que je l'éloigne un peu du lecteur pour qu'elle soit crédible davantage. Et à partir de là, j'ai trouvé que ce nom, Connemara, était une sorte d'évidence, ça avait un joli nom. Donc forcément, ça projetait une histoire en Irlande où je suis allé quelquefois et où j'ai adoré écrire. Et une région d'Irlande en particulier qui est assez, assez formidable est tellement isolée qu'on peut imaginer un endroit où les téléphones ne captent pas, où on vit dans une forme de passé dont j'avais absolument besoin pour que mon histoire tienne. Parce qu'en fait, on ne dit pas assez que dans les histoires d'aventure et dans les polars, le téléphone portable, c'est une catastrophe. Quand un personnage, dans les livres que je lisais autrefois, était au fond d'un souterrain, enfermé, etc., par des méchants, il était fichu. Il fallait qu'il trouve un moyen de s'en échapper ou par, avec, je sais pas, une lampe torche ou je sais pas quoi, envoyer des signaux. Aujourd'hui, on sort son téléphone portable, allô, t'es où ? Et c'est terminé. Hein. Donc il fallait que j'arrive à éliminer les téléphones pour que mon histoire puisse fonctionner. Donc voilà, tout ça fait un ensemble qui m'a poussé à placer ça dans cette île.
Vous l'avez dit tout à l'heure et j'ai trouvé, moi, c'était très important comme phrase. Quand Alicia propose son roman en première intention aux 10 éditeurs, la phrase est « un roman d'aventure dont l'héroïne est une fille ». Pah ! Quelle horreur ! Donc ici, nous avons une héroïne fille dans Connemara, des héroïnes très très fortes en la personne de Alicia, Violette, Emma. Bon, un peu Tom quand même, hein, parce qu'il fait largement sa part, mais j'ai trouvé quand même qu'il y avait quelque chose de très féminin dans cette histoire. Et en fait, en regardant votre travail, finalement, ces derniers temps, il y a eu de plus en plus d'héroïnes féminines, un peu moins de trios, plus des filles mises en avant. Est-ce que c'est quelque chose qui était volontaire? Est-ce que ça vous a traversé au fil des années d'écriture ou ça, comment ça se présente en fait?
Je sais pas, j'ai l'impression que écrire en ayant pour personnage principal une fille, prendre peut-être aussi la parole à la première personne comme un personnage féminin, c'est quelque chose que j'ai appris progressivement à faire, que je ne savais pas faire autrefois, que je n'osais pas faire. Peut-être parce que je le raconte suffisamment dans les histoires des gens quelque chose, mais j'ai été élevé dans une famille où on n'était que des garçons. À une époque où à l'école, on allait que... les écoles étaient séparées, garçons et filles. Donc j'ai l'impression que les filles sont rentrées dans ma vie assez tard. J'ai eu la chance d'être papa d'une fille, j'ai été professeur, j'ai eu des élèves filles, etc. Mais il m'a semblé que j'abordais la psychologie féminine et l'écriture de personnages féminins avec plein d'interrogations et que je savais pas bien faire. Par exemple, dans la série des enquêtes au collège, chaque livre est raconté à son tour par un personnage différent. Et il y a un des tomes qui est raconté par Mathilde, et j'ai eu plus de mal à écrire celui-là parce que c'était Mathilde qui parlait, parce que je me sentais pas à l'aise à faire parler une fille. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, je sais mieux faire ça. Et je trouve qu'il y a quelque chose de très intéressant à avoir des personnages féminins comme héroïnes de romans d'aventure. Je pense par exemple à Olympe de Roque d'Or. Olympe, c'est un personnage qui m'a passionné parce que c'est une jeune fille qui doit échapper au terrible carcan de son époque. Elle est fille, orpheline, donc elle est vouée à un mariage forcé. Il n'y a pas d'autre solution pour elle que ça, ou au couvent, ce qui était la situation des femmes au XVIIe siècle. Soit on épousait quelqu'un et on devenait femme d'eux, soit on était envoyé au couvent, et parfois simplement parce que les parents n'avaient pas de quoi vous doter. On avait doté l'aîné, on n'avait plus d'argent, mais on mettait les autres au couvent. Donc, situation atroce. Cette jeune fille s'échappe, et s'échappant, elle regagne sa liberté. Mais pourquoi faire? Elle est perdue dans la nature, elle n'a aucun protecteur, elle n'a aucune capacité d'action. Les filles n'avaient pas, dans la société, d'existence possible hors du mariage. Donc, j'ai trouvé passionnant d'essayer de me lancer avec elle dans cette espèce de reconquête d'une forme de liberté et de ses terres, parce que ses terres, c'est l'héritage de ses parents, et c'est ça qui va lui redonner une assise sociale, la possibilité d'exister. Et j'ai trouvé que c'était une aventure d'écriture assez passionnante que de se plonger là-dedans et de la voir repousser toutes les contraintes qui pèsent sur elle les unes après les autres. Et franchement, je crois qu'on est dans le domaine du roman, parce que je ne suis pas certain que un personnage réel à cette époque aurait pu parvenir à ça. Mais c'est ça qui est bien dans le roman, c'est qu'on peut offrir des destins heureux à des personnages qui ne l'auraient pas été dans la réalité.
Ce roman, Olympe de Roquedor, a ceci de particulier que vous l'avez écrit avec François Place. Est-ce que ça a modifié quelque chose, ou est-ce que justement peut-être qu'une impulsion est venue de vos deux cerveaux? Ou comment ça s'est passé, cette écriture? Parce que vous ne l'avez pas fait souvent, ça,
partager. Non, c'est la première fois que je fais ça, et très franchement, c'est très particulier comme exercice. Déjà, c'est difficile d'écrire un livre. Déjà, c'est difficile d'arriver à mener à bien une histoire avec son propre imaginaire. Mais imaginez qu'il faille partager l'histoire avec quelqu'un. À la fois, ça vous ouvre un champ formidable, parce que l'autre, avec son intelligence, avec son imagination, avec ses compétences, ses connaissances, etc., vous ouvre un terrain de jeu et d'écriture dans lequel vous ne seriez pas les seuls. Mais en même temps, c'est frustrant, parce que il vous conduit forcément vers des lieux, vers des choses que vous n'aviez pas imaginé nécessairement. Donc il y a une espèce à la fois de restriction de votre propre liberté et un temps d'ouverture de votre imaginaire à celui de l'autre. Donc c'est assez compliqué, il faut absolument le faire avec quelqu'un avec qui on s'entend parfaitement. Et c'est le cas de François, qui est un grand ami. On s'est dit, voilà, on a envie d'écrire ensemble. On va faire la chose suivante. On va écrire un chapitre, chacun à son tour. Donc, il a écrit un premier chapitre, qui s'est avéré le deuxième, qu'importe. Et il me l'a envoyé, j'ai adoré, j'ai écrit le second, puis il a fait le troisième, etc. Et on a avancé dans ce livre en découvrant au fur et à mesure notre histoire. On est vraiment parti, à un moment donné, Olympe s'échappe. On ne sait pas qui elle est, on ne sait pas à quoi elle s'échappe, on ne sait pas qui est cette espèce de grand gaillard qui va intervenir et dont on va découvrir que c'est un soldat borgne qui va se lancer à sa poursuite comme un chasseur de primes, au fond. Et on a découvert cette histoire au fur et à mesure. Ça a été une aventure assez, assez géniale, mais compliquée.
Je reviens un tout petit peu en arrière quand... Donc, comme on l'a dit, Enquête au collège, c'est pas tout récent, donc il a eu droit à ce qu'on appelle un relook, un recoverage et de nouvelles illustrations. Toujours dans cette histoire de faire parler les filles, si vous avez relu Enquête au collège, il y a eu un moment où vous avez eu envie de changer des choses. Est-ce que vous avez changé des choses? On sait par exemple que la série du Club des Cinq, que vous avez adoré et que vous lisez peut-être, parce qu'elle marche très très bien encore, cette série, a en partie été réécrite, remise au goût du jour. Est-ce que ça vous a déjà traversé l'idée de remodifier des choses dans vos textes qui ont été écrits il y a une trentaine d'années?
Non, il y a deux choses. C'est terrible de se relire, et en particulier de relire des textes un peu anciens, parce qu'on voudrait tout réécrire. J'espère, quand on écrit, que depuis des années qu'on écrit de mieux en mieux, qu'on maîtrise de mieux en mieux son art de romancier. Donc les premiers textes vous paraissent navrants. Donc ça, c'est la première chose, ça c'est sur le plan littéraire. Sur le plan du contenu, dans Enquête au collège et cette série-là, j'ai rien touché. Mais très récemment, je suis revenu sur les histoires des frères Jean, parce qu'au début, dans les premiers livres des frères Jean, il y a de temps en temps le papa qui, énervé, balance des claques. Et je me suis aperçu qu'aujourd'hui, c'était plus audible par vous, lecteurs et lectrices. D'abord, la loi interdit, etc., mais il ne s'agit pas de châtiment corporel, bien sûr. C'est le papa qui, d'un coup, se retourne et balance, voilà, un truc. Et je me suis aperçu que ça créait une forme de violence aujourd'hui, dans un univers qui ne l'était pas du tout. Donc, je suis allé faire la chasse à tout ça, et j'ai changé. Et ça va, au fur et à mesure des réimpressions, ça va apparaître dans les livres les uns après les autres. Mais sinon, Moi, il me semble qu'il ne faut pas toucher, il faut pas toucher au reste, parce que les livres, ils sont aussi les témoins d'une époque. Ils ont été écrits dans un moment où un certain nombre de choses étaient entendues. Il faudrait réécrire sans cesse, en permanence, tous les livres, tous les 10 ans. Je trouve que ça n'a pas grand sens. Là, c'est quelque chose de particulier parce que ça touche à... Je sais pas comment expliquer ça, mais... J'ai l'impression que ça crée tout d'un coup, alors que ça n'était pas du tout l'objectif, ça crée tout d'un coup une espèce de sidération chez le lecteur quand le papa, qui est un papa adorable, qui de temps en temps perd ses nerfs et menace d'envoyer ses enfants chez les enfants de troupe, de temps en temps, il se retourne en voiture parce que les enfants font n'importe quoi et qui, voilà, et qui lâche 2-3 claques comme ça sans voir. Bon, ça me paraissait un peu de l'ordre, vous savez, dans les pièces de Molière, des bastonnades. Hein, quand on voit Scapin prendre des coups de bâton, on se dit pas « Oh là là, le pauvre !» C'est plutôt rigolo parce qu'on est dans le domaine de la comédie. Mais je trouve qu'aujourd'hui, c'est tout d'un coup, pour les lecteurs d'aujourd'hui, c'est pas drôle, ça peut être glaçant. Donc voilà.
Le temps passe vite et j'imagine que les enfants ont pas mal de questions. Je voulais juste terminer quand même sur... donc on l'a évoqué vite fait, il y a des éditeurs dans Connemara, ce sont les frères Mordicus. Des sales bêtes, hein, on peut dire ça comme ça. Et donc, en fait, il y a une héroïne qui devient... un personnage qui va... une héroïne qui devient personnage du roman. Un personnage qui, à son tour, va se mettre à écrire un petit peu l'histoire des héros. Et un éditeur dans tout ça, et un auteur. Et au final, je me suis dit, mais tous ces rôles-là, vous les avez joués vous? Vous avez été le héros, vous êtes Jean B, vous êtes l'auteur à chaque fois, vous avez été éditeur. Est-ce que c'était voulu? Est-ce que dans votre tête, vous vous êtes dit, je suis un peu de tout ça?
Oui, à la fois, je suis un peu tout ça, mais surtout, ce qui m'intéressait, c'était de raconter une histoire d'aventure, une histoire distrayante dans le monde de l'écriture. De montrer que écrire des livres, c'est quelque chose de passionnant, que c'est en même temps quelque chose de difficile, que c'est quelque chose qui peut se pratiquer à plusieurs. Voilà, j'avais envie d'une histoire qui trouve son centre dans les thématiques de l'écriture. Qu'est-ce que c'est qu'un héros? Comment s'écrit un dénouement? Comment on joue avec un personnage pour le mettre dans des situations compliquées, comment on rattrape la crêpe au dernier moment. Voilà, c'était ça qui m'amusait et qui me semblait pouvoir être aussi un bon moyen pour le lecteur de rentrer par la petite porte dans le monde de l'écriture et de découvrir ce que c'est.
Eh bien, merci. Alors, moi, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup, Jean-Philippe.